Vous écoutez
RMC.
RMC. On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
L'after, c'est jusqu'à minuit, on rentre dans la dernière heure. Et là, vous avez entendu la consigne, on arrête de se prendre pour Calimero. Voilà, au moins c'est réglé. Ludo, pas la peine de faire cette tête, c'est terminé.
Non,
on porte haut, on bombe le torse et on fait cette deuxième heure. On va vous parler dans quelques instants de Patrice Evra qui a mis fin à sa carrière. Je vous rappelle le résultat du soir, c'est de la Ligue 2. Le FC Lorient a battu le Paris FC. Des buts de Cabot, Saunier et Vissa. Lorient, co-leader de la Ligue 2. Et tout de suite, on va vous parler du mercato. C'est un sujet qui me tenait à cœur, pour être tout à fait franc. Le mercato chinois se clôturera demain. Le mercato en Angleterre le 8 août. En France, ce sera le 2 septembre. Paris en Turquie, en Espagne, en Allemagne. Ce sera le 25 août en Italie. Bref, c'est un foutoir terrible. On n'y comprend rien. Alors, messieurs, est-ce qu'à vos yeux, ça n'impacte pas l'équité des différents championnats? Puisque finalement, on peut estimer que chaque championnat est maître en son pays. Mais puisque ces championnats disputent une compétition commune, des compétitions communes que sont la Ligue des Champions et l'Europa League, est-ce que cela ne crée pas un déséquilibre? Je vais vous poser cette question. Juste avant cela, on va accueillir Stéphane Canard. Il est agent, il est au cœur justement du mercato. C'est l'agent de Gaëtan Charbonnier, de Pierre Lesmélou, de Christophe Pélissier. D'ailleurs, ce sera l'occasion de le féliciter de notre part. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Alors, bonsoir Stéphane. Justement, Stéphane, on va vous donner la parole en premier. Ce mercato à géométrie variable, selon les zones géographiques, je vais vous poser une question purement business. Pour vous qui êtes vendeur, est-ce que c'est intéressant ou contre-productif?
Alors, si je réfléchis de manière intelligente, en faisant travailler mon cerveau d'agent, je dirais qu'on peut penser que c'est embêtant de ne pas avoir une coordination de l'ensemble des mercatos. Maintenant, il faut savoir s'adapter. Si on raisonne sur les problématiques des clubs qui, aujourd'hui, ont une concurrence pour certains qui est un peu déloyale avec des charges patronales et salariales qui sont aussi différentes, essaye de s'adapter. Donc nous, notre volonté, c'est d'essayer de trouver des solutions en fonction de la réglementation dans chacun des pays. Voilà, et on y arrive.
Pierre, pour toi, est-ce que l'équité est respectée quand on voit que pour certains, ça va se finir plus ou moins tôt? À une époque, il y avait aussi les championnats du Moyen-Orient qui, eux, finissaient leur mercato quasiment à la fin du mois de septembre. Est-ce que tu trouves ça logique? Là, par exemple, le Portugal, ça va finir le 22 septembre. Est-ce que ça trompe pas un peu les choses?
Moi, plus que le déséquilibre que ça pourrait créer entre différents championnats, parce que chaque championnat finalement, fait ce qu'il a. Qu'il a envie, c'est plus comment ça se passe au sein de chaque championnat, en fait. Moi, c'est plus l'équité. Et là, je vais me placer pas sous l'œil de l'agent ou du conseiller sportif ou même des joueurs qui ont un certain temps pour trouver un club, mais plus des clubs et de l'équité sportive. Moi, j'apprécie énormément. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas mal ce que font les Anglais, où quand le championnat, la compétition débute, le mercato se termine, ou en tout cas l'achat de joueurs se termine, puisqu'on peut continuer à vendre dans les pays, dans les championnats où le mercato reste ouvert. C'est plus ça qui m'intéresse, moi, finalement. C'est qu'à un moment donné, quand la compétition commence, et Stéphane va peut-être pouvoir me répondre, mais moi je pense qu'on aurait le temps de faire exactement les mêmes choses avant le début du championnat que en continuant un mercato encore trois semaines après le début de celui-ci. C'est plutôt ça qui m'intéresserait, moi. C'est que quand débute la compétition, le mercato est fini, les effectifs sont constitués.
On viendra à vos propositions évidemment un petit peu plus tard. Ludo, cette difficulté de lisibilité, est-ce qu'elle n'est pas gênante pour les clubs? Et puis on parlera ensuite aussi des supporters qui ont peut-être envie de suivre avec une certaine excitation ce mercato. Il y a des supporters qui adorent ça, qui préfèrent presque cette période-là à la période de championnat et qui peuvent, par manque de lisibilité, être déçus.
T'es sûr, Simon, t'es sûr que les supporters préfèrent cette période-là que la période? périodes sportives avec les matchs, etc. Ils sont des fous furieux de Mercato qui adorent ça, qui suivent, qui jouent à Football Manager. Alors, mais c'est pas ce qui doit les exciter le plus. Ou alors, c'est pas des vrais supporters. Le vrai supporter, il attend le premier match de championnat quand ça commence, quand ça va commencer à aller jouer à l'extérieur, à la maison. Enfin, ça c'est un supporter.
Pierre, je partage ton avis, mais je peux t'assurer qu'il y a des fanas de Mercato et qui adorent cette période. Avant ça, Ludo, est-ce que pour toi, ça peut brouiller un petit peu l'équité des différents championnats?
Non, pas forcément, parce que finalement les clubs se réveillent quasiment tous en même temps. C'est-à-dire que tu finis la saison fin mai, le mercato ouvre, Pierre, si je dis pas de bêtises.
En France?
Ouais.
Début mi-juin. Mi-juin, en gros, mi-juin. 11 juin, hein, Stéphane.
11 juin cette année.
Et sauf que tu vois jamais personne entre le début du mercato et le 15 juillet faire des coups. Tout le monde se réveille au dernier moment.
T'as des protocoles parfois qui sont signés avant,
dans
etc.
Tous les clubs, mais les managers partent en vacances, en ci, en ça. Il n'y a jamais de deal qui sont faits avant ou tout de suite en début de mercato pour prendre les mecs, te sécuriser pour les avoir. C'est très rare. C'est très, très rare.
Il y a aussi les compétitions internationales qui brouillent.
Donc si tu veux, ça pourrait apparaître. Vu la longueur, les gens se disent, bon, on a le temps de faire le truc. Donc ça permettrait à certains clubs de pouvoir se positionner sur des mecs qui, souvent, les joueurs se retrouvent en insécurité. Parce que certes, t'en as qui sont les meilleurs, qui se disent, moi je vais attendre la fin du mercato parce que je vais avoir des offres, et plus le mercato dure, plus mieux c'est pour moi parce que les offres vont augmenter. Mais t'as des joueurs qui sont des moyens couteaux, qui sont souvent dans l'attente d'un club. Si le club vient au mois de juin, je peux te dire que le mec, par sécurité pour sa saison, il signe de suite. Et c'est ce que je reproche au club, c'est que je trouve qu'ils bossent pas assez lorsque le mercato est ouvert. Il y a pas assez de deals qui sont à ce moment-là pour préparer ta saison.
C'est pas une réalité. La réalité, Ludo aussi, ouais. Et Stéphane pourra peut-être nous le confirmer après, mais c'est aussi qu'en France, alors peut-être pas pour certains clubs, les principaux clubs, mais t'as aussi une réalité économique, c'est que souvent les clubs sans dégraisser ne peuvent pas acheter. Et t'es confronté à ça, c'est que comme il y a encore beaucoup de temps, tant que t'as pas dégraissé, chacun attend un peu de libérer de la masse salariale pour pouvoir prendre, et ça crée une situation parfois un peu latente comme
moi,
ça.
Après, moi, ce qui me gêne plus, c'est le mercato d'hiver. Honnêtement, le mercato estival qui dure. Après, comme Pierre, si on se disait, voilà, à partir du moment où le championnat il débute, terminé, ça irait très bien à tout le monde et ça me paraît raisonnable. Après, moi, là où je suis le plus gêné, c'est de pouvoir ce qu'a fait Monaco la saison dernière, où là, bon, en fonction des budgets, ça fausse carrément l'équité du championnat.
Stéphane Canard, vous êtes avec nous. Merci beaucoup d'être sur RMC dans l'after. Justement, auprès des joueurs, Stéphane, est-ce que pour eux aussi, c'est très lisible? Est-ce que il y en a qui viennent aux informations pour vous dire j'espérais aller en Angleterre, ça s'est pas fait. Qu'est-ce qu'il y a comme championnat encore ouvert d'une certaine manière? Comment ça fonctionne cette période un petit peu critique de la fin des différents mercato?
Avant de répondre à votre question, je vais revenir sur ce qui a été dit auparavant. Il y a une problématique en France qui est très claire, c'est qu'on a un problème d'exercice comptable. Alors là, on rentre dans la comptabilité pure des clubs et des entreprises, quelles qu'elles soient, hein, où vous avez la fameuse date du 30 juin, où vous avez obligation d'essayer pour équilibrer vos budgets via la DNCG, puisque on est quand même l'un des seuls pays à avoir ce contrôle et cette nécessité d'avoir des budgets équilibrés. De passer malheureusement par des ventes avant des achats ou des achats avant les ventes où il y a plein d'ambiguïtés qui sont faites. Je vends combien, j'encaisse combien, je suis payé comment en termes de trésorerie, etc. Donc c'est hyper compliqué. Quand j'entends tout à l'heure quelqu'un dire que les clubs ne font pas preuve d'un grand professionnalisme, non. Ils font comme ils peuvent avec
c'est toi Mourinho, hein. J'ai pas dit d'un professionnalisme, j'ai dit d'un sens de l'anticipation.
Il y avait une difficulté quant au club de faire preuve d'un grand professionnalisme.
Mais après,
je suis confronté à l'ensemble des clubs professionnels, qu'ils soient français ou européens, aujourd'hui la complication c'est d'arriver à équilibrer les budgets. Il y a les contrôles financiers, il y a la DNCG, puis vous avez une entreprise normale qui a une obligation, c'est d'équilibrer ses comptes. Donc tout ça mis bout à bout fait que il y a une difficulté quant à savoir exactement quels vont être les moyens qui sont donnés aux cellules de recrutement. Alors après, Ce que j'ai entendu aussi, c'est vous pensez peut-être que en amont le travail n'est pas fait, mais si, il est fait. Moi, quand je fais signer Pablo Chavarria à Majorque, ça fait 3 mois que j'ai déjà trouvé, alors qu'il est libre de Reims et qu'il n'y a pas de club français qui se sont réellement déterminés, on a déjà trouvé un accord avec Majorque. Quand je fais signer Valentin Rozier au Sporting de Lisbonne, on a déjà une négociation, une discussion depuis 2 ou 3 mois avec le club de Sporting. Et pour tous les joueurs, c'est comme ça. Après, la finalisation que je vais qualifier de médiatique, celle que l'on entend au final lorsque le joueur signe, parce qu'on est tenu maintenant, et vous le savez tous, on est obligé de passer par les sauces codines des réseaux sociaux, qui va annoncer le club vendeur, le club acheteur, le joueur, les entreprises qui travaillent autour de tous ces différents éléments et les nôtres, qui va annoncer le premier que le joueur a signé un contrat, de quelle durée, etc. Et tous les journalistes, aujourd'hui je suis à Angers pour négocier un contrat avec Matheus Pereira Lage, un joueur de Clermont, mais j'ai passé des réponses à une quinzaine de journalistes qui voulaient savoir exactement quelles étaient les modalités. Et aujourd'hui, tant que tout n'est pas finalisé, je réponds de manière, j'essaye d'être élégant en disant attendez demain, et demain a priori tout sera finalisé, on verra demain. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Clermont va annoncer quelque chose, Angers va annoncer quelque chose, le joueur avec ses conseillers en termes de réseaux sociaux, j'en parle, hein, parce qu'on met ses conseillers va annoncer des choses, nous on va annoncer des choses. Donc c'est difficile aujourd'hui avec cette instantané de la communication, d'arriver à bien faire les choses. C'est pour ça que je dis, vous voyez, mais vous le savez vous, parce que vous êtes tous des professionnels, qu'en réalité, lorsqu'on annonce ces choses, elles ont déjà été travaillées depuis des mois et des semaines, et qu'on est juste dans une finalité de signature officielle, voilà, pour l'annoncer.
Juste pour vous répondre, pour essayer de bien comprendre les choses, moi je parle de sens d'anticipation. Le club, il attend quand même pas le 30 juin de regarder son exercice comptable. Il a quand même déjà évalué au mois de mai ou début mai quel va être son exercice comptable au mois de juin quand même.
T'as parfois des dernières ventes qui t'équilibrent c'est pas ça. C'est que tu rentres avant le 30 juin quand tu signes, et quand tu rentres en trésorerie pure quelques millions d'euros avec des ventes, ça te permet d'équilibrer un exercice. La vente d'avant.
Là vous me parlez par rapport au club étranger du Sporting et de Majorque. Donc et vous me dites qu'en France c'est plus compliqué pour à ces périodes-là trouver des.
Il y a qu'en France que tu as une DNCG comme ça aussi rigide et qui contrôle autant.
Moi, je dis pas que les clubs ne travaillent pas. Je dis pas que les agents ne travaillent pas sur les dossiers. J'ai bien conscience que vous ne vous levez pas un matin et vous dites tel joueur, on va t'emmener là, on va passer un coup de fil, et puis voilà. J'ai bien conscience que c'est des mois de négociation.
Ludo.
Mais ce que je me dis, c'est que des fois, sur certains joueurs qui sont un peu dans l'insécurité, venir un peu en début d'ouverture de mercato pourrait, ce qui n'est pas forcément les clubs ne raisonnent pas comme ça. Mais moi, je peux vous le dire en tant que joueur. Des fois, il y a une insécurité de trouver un club, et donc des fois, il y a des joueurs qui seraient prêts à accepter en début de mercato, ce qui n'aurait pas forcément accepté par la suite.
On s'éloigne un petit peu de notre sujet des dates à géométrie variable. Je voudrais, Stéphane, que vous me répondiez. Est-ce que les joueurs eux-mêmes sont perturbés par cette lisibilité difficile des différentes dates dans les différents championnats ?
Non. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont un conseiller digne de ce nom, on a anticipé la situation, on a ciblé les championnats qui pouvaient les intéresser et surtout dans lesquels ils pouvaient s'exprimer. Chaque joueur, et là vous avez autour de vous d'anciens joueurs professionnels qui savaient exactement que dans certains championnats ils n'auraient pas pu s'exprimer, dans certains clubs ils ne pouvaient pas s'exprimer. Donc aujourd'hui on sait quels sont les clubs que l'on cible, les championnats que l'on cible. À partir du moment où on connaît les dates de fin de mercato, c'est d'une facilité déconcertante de se dire il faut d'abord qu'on envisage de prendre des contacts dans telle et telle région du globe. Ensuite, on pourra se rabattre, entre guillemets, si jamais on n'a pas réussi notre coup, sur des discussions avec tel ou tel pays, on ira vers tel ou tel pays, mais c'est fait en parfaite harmonie avec les joueurs.
Et puis Stéphane, on va, pour te répondre, Timothée, sur ce dont tu parles, le déséquilibre, on va être honnête, à part l'Angleterre aujourd'hui et l'Italie qui sont en avance sur la clôture de leur mercato, tout le reste, à 3 jours près, une semaine près, ça se finit au même moment.
C'est peut-être pas un championnat que tu veux prendre en compte, mais il y a la Chine, c'est après-demain.
La Chine, si tu veux, voilà, mais la Chine, comme l'a dit Stéphane, ça concerne une minorité de joueurs, mais une toute petite minorité de joueurs.
Moi, ce que j'aurais été plus simplement, c'était peut-être ce manque de lisibilité. Alors, j'avais intitulé pompeusement ce débat, les dates du mercato à géométrie variable, que fait la police? C'est aussi ça, ma question, messieurs. Est-ce que l'UEFA, est-ce que la FIFA doit, à un moment, s'immiscer dans ces décisions de championnat pour essayer de mettre tout le monde d'accord?
On va laisser répondre Stéphane, mais c'est pas elle qui choisit complètement, hein, je pense.
Non.
Voilà.
On est obligé de s'adapter. Je veux dire, le rôle d'un intervenant dans le monde du football professionnel, que ce soit les clubs, les joueurs ou les agents, c'est de s'adapter à la réglementation. La réglementation est ce qu'elle est. Alors après, on s'y adapte et après on peut l'analyser, la critiquer et penser qu'elle doit être modifiée aux instances de regarder. Regardez en rugby par exemple. Vous avez des journées de championnat où l'équipe de France joue et où les internationaux sont pris. Personne ne ça serait ça. Ça se passerait comme ça dans le football. Mais ça serait une ineptie. Ça serait incompréhensible. Donc il faut savoir s'adapter. Voilà. Et le propre de notre activité, c'est de trouver des solutions à ce qu'on peut nous apporter comme possibilité. Voilà.
Et
si un championnat se termine à telle date, eh ben, on travaille dans ce championnat par anticipation. On vérifie, Portugal va terminer, je crois c'est le 22 septembre de mémoire, on sait que si un joueur qui a une connotation d'un jeu un peu à l'hispanique, à la latine, on sait qu'on a le championnat italien qui va se terminer avant, ensuite on a le championnat espagnol qui va se terminer ensuite, et ensuite on a le championnat portugais avec de très bons clubs qui vont peut-être pouvoir nous apporter des solutions. Voilà. On sait aussi, écoutez, moi je gère la carrière d'Aïmen Abdennour. De mémoire, je pense que je l'ai fait passer de Toulouse à Monaco un 31 janvier. Je l'ai fait passer de Monaco à Valence un 31 août, de mémoire. Et je l'ai fait passer de Valence à Marseille un 30 ou un 29 août. Il y a de l'anticipation, oui. Puis ensuite, il y a du réajustement. Quand il a signé, par exemple, à Marseille, c'était suite à une défaite de Marseille à Monaco, de mémoire, il y a 2 ans, 6-1, où d'un seul coup, il y avait une nécessité absolue de trouver des solutions en termes de défense centrale. Et voilà. Et on a trouvé cette solution-là. Donc, il faut savoir s'adapter. Il faut être à l'écoute. Voilà. Et les médias nous servent dans l'analyse qu'ils nous donnent, dans les comptes rendus qu'ils nous donnent. Et on essaye de trouver des solutions en pensant, en réfléchissant, en anticipant. Voilà.
J'ai une question, Stéphane, pour toi qui est peut-être la principale finalement. Est-ce qu'on serait, est-ce qu'avec des fins de mercato qui se finiraient tous à la reprise des championnats, donc en gros entre début août et le 10 août, est-ce que ce serait pas mieux parce que tu seras en vacances plus tôt quand même, non?
Alors, je vous mettre à l'aise tous ensemble. Hein. Avec mes associés Nicolas Dieuze et Stéphane Trévisan, on a dû faire 36 ou 37 négociations au jour d'aujourd'hui. Il nous reste un ou deux cas à régler. J'ai tellement de sollicitations de joueurs qui n'ont pas trouvé de solution au jour d'aujourd'hui extérieure, hein, qu'on n'a pas sous contrat, et qui nous demandent de les aider, que je sais pas si... J'ai jamais pris de vacances avant le 31 août. Je prends toujours des vacances à la Toussaint et en février. Parce que
oui, aujourd'hui, mais si un jour les mercatos sont fermés au 10 août, il y aura une possibilité. Tu seras en congé technique.
Messieurs, on n'était pas dans l'unique volonté de critiquer ces mercatos à géométrie variable,
mais pour aller dans le sens de Pierre. Quant à le marché, le championnat anglais qui reprend fin août.
Bon, un petit peu avant, quand
entre
même.
Entre mi et fin août.
Un petit peu avant, ouais, mi-août.
Et que toi, t'as repris quasiment début août. Il se crée aussi le championnat anglais. Il se réveille les mecs, tu vois, avec Pépé. Hein. Il se réveille les Anglais, comme c'est eux qui ont tout l'argent. Eux, ils peuvent s'envoyer en l'air comme ils veulent. C'est pas une question. Donc eux, ils arrivent sur le marché sur le tard.
Le 10 août, ça reprend l'Angleterre, pas fin août.
Non, pas un peu plus tard, non.
Non, je crois que c'est
non, ça. Non, ce sera le 10 août, ça n'est pas
ça. Oui, les mercatos sont finis le 8 et
le. Oui, oui, et puis les Italiens, enfin, c'est valable pour d'autres championnats.
Ce qui va longtemps, c'est que les Anglais traînaient, et donc. Les petits clubs, tu vois, par exemple, Lille, je parle pas de avant, hein, peut-être t'avais un mec comme
Pépé,
t'es obligé d'attendre que les Anglais se réveillent pour pouvoir, toi, vendre ton joueur et toi, mettre en place ton mercato parce que t'attendais les liquidités nécessaires pour pouvoir te positionner alors que toi, t'avais déjà commencé ton championnat et que t'étais déjà, vois, c'est ça aussi, ça crée ça déréglait complètement le championnat.
Messieurs, on a une conversation de spécialistes. Mon idée était aussi de parler un petit peu du supporter qui a envie de voir son équipe démarrer. Le 10 août prochain je sais pas, le supporter de Nantes et de se dire l'équipe que je vais voir à la première journée, ce sera celle que je verrai à la 38e. Je suis tranquille, je risque pas d'en voir partir un au dernier moment. Mais le but n'est pas seulement aussi de critiquer ces dates à géométrie variable. On a compris, Pierre, que ta proposition, c'était que chaque championnat clôt son mercato avant la première journée. Ludovic, une idée?
Oui, dans son sens. Je pense que déjà ça serait une très belle avancée.
Stéphane, pour vous, pour le supporter, ça reste une entreprise de spectacle. Y aurait une solution idéale pour normaliser, régulariser tout ça, ou bien est-ce que simplement vous estimez que le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, j'ai bien compris que le but c'est de s'adapter et de répondre aux exigences, à la loi de chaque pays et à la souveraineté de chaque championnat. Mais est-ce que pour le grand public, pour qu'il y voit plus clair, est-ce que vous auriez une solution éventuellement?
Bon, là, je rejoins vos interlocuteurs. C'est vrai que par éthique, et pour arriver à mettre en place un système qui soit respectueux de tout le monde, il faudrait arriver peut-être à avoir une date qui soit uniforme. Oui, là, je vous rejoins complètement. Après, arriver à faire que le mercato se termine avant la première journée de championnat, oui, ça serait là aussi, il y aurait une certaine forme d'élégance en se disant on respecte à la fois les entraîneurs qui ont préparé leur équipe et qui ne vont pas avoir des surprises d'arriver successives après les premières journées. On respecte les supporters qui, eux aussi, se sont pris d'amour pour des joueurs et pour leur équipe et ne vont pas avoir des mouvements qui viendront après les premières journées de championnat. Après, en contrebalancement, on peut se dire, en même temps, s'il y a un club à quelques difficultés sur un poste ou un autre, il faut qu'ils puissent, mais c'était la notion des jokers à une époque donnée, ça a été la notion des chômeurs qui pouvaient aussi signer après les dates de fin de mercato. Bon, je pense que c'est compliqué. Vous savez, quand je vous entendais parler, je pense aussi à la notion, vous allez rigoler, mais peut-être, le jour de l'an. Le jour de l'an, on n'est jamais à la même heure au même endroit sur la planète. Alors, à partir d'un moment où on a cette notion-là, on se dit, le mercato, pourquoi il n'y aurait pas des dates différentes? Mais sincèrement, moi, je pense que notre rôle à nous, agents et au monde du football, c'est d'essayer de trouver des solutions, de s'adapter partout, je dirais, et sans se poser de questions. C'est mon sentiment.
Stéphane Canard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. On vous souhaite beaucoup de courage parce que vous êtes en plein mercato. C'est le gros boom, c'est la période chaude, le coup de chaud, comme on dirait en restauration, pour vous actuellement. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous et à très bientôt. On l'a compris, peut-être essayer de trouver.
Le coup de feu ou le coup de chaud?
Les deux.
D'accord.
Les deux, coup de feu, ouais, t'as sûrement raison.
Coup de feu, c'était au service, coup de chaud, c'était en cuisine.
Voilà, avec donc l'idée, pourquoi pas, d'arrêter le mercato au début de chaque championnat et si possible à l'heure solaire, comme ça au moins ce sera réglé pour tout le monde.
S'adapter, on veut bien tous s'adapter sur le calendrier de questions, mais ça fait pas avancer les choses parfois.
On revient dans quelques secondes pour la dernière ligne droite de l'after, avec évidemment le cas Patrice Evra. I love this game. Nous aussi, on va parler de lui. Et puis il y aura le quiz, un quiz spécial justement, Tonton Pat. À tout de suite dans l'after, il est 23h22.
RMC. L'Afterfoot, Timothée Mémon.
23h26, l'after dans un gros quart d'heure. On va jouer comme des petits foufous. J'ai envie de te donner la parole tout de suite parce que t'as un bonbon dans la bouche, mais je vais pas le faire. Pareil pour Pierre. Les mauvais élèves, évidemment, au fond du radiateur en train de mâcher des chewing-gums. On va vous parler de Patrice Evra. Il l'a annoncé très solennellement aujourd'hui dans une interview longue et riche aux Parisiens. Patrice Evra arrête sa carrière. Je dis stop. J'ai l'impression d'être guidé par un ange. Ça peut prêter à sourire, mais c'est ainsi. Tout est une question de destin, rien n'est dû au hasard. Une phrase finalement qui résume peut-être à elle-même la carrière de Patrice Evra, avec des hauts sportivement, des bas extra-sportivement. C'est un peu la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de la carrière de Patrice Evra? Parole à Pierre Ducrot.
Si tu parles de la carrière sportive, moi je retiens
son ensemble.
Je retiens une immense carrière. Moi, voilà. Comment tu veux que moi aujourd'hui, qui est pas un dixième de ses titres, et encore, je suis gentil avec moi, je critique la carrière sportive de Patrice Evra. C'est impossible. Le gars a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné, je pense, 4 ou 5 titres dans
5 championnats d'Angleterre, 3 voilà, championnats d'Italie.
Il a tout gagné, quoi. Là, partout où il est passé, il a joué plus de 500 matchs. Enfin voilà, c'est une grande carrière. C'est une immense carrière. carrière sportive. Mmh. Moi, je voilà. Je après, si on parle de, du reste, si on parle de la fin qui est un peu plus compliquée, si on parle de l'extra sportif, effectivement, il y a eu quelques dérapages, mais bon, voilà, ça fait partie aussi de la vie d'un homme.
Ludo, en préambule, qu'est-ce que ça t'inspire la carrière de Patrice Evra comme ça, de but en blanc?
L'homme aux deux visages. Que ça soit sur le plan sportif ou sur le plan humain, l'homme de club d'un côté, qui je rejoins Pierre là-dessus, immense carrière, avoir été capitaine de Manchester United, c'est quand même pas rien. Avoir été si loin, cette épopée avec Monaco, il est quand même affilié, même avec la Juventus. Enfin, après la fin de carrière, c'est autre chose. Voilà, il est arrivé un
moment. Oui, les deux dernières années, Marseille et West Ham.
C'était peut-être pas le moment pour lui de revenir en France, au vu de ce que s'était passé d'ailleurs avant. C'était pas la bonne solution. Après, sur le plan humain, pareil. T'as le gars hyper attentionné que tu vois, capitaine, qui harangue les mecs, qui leur fait des leçons de morale. Tu le vois très bien.
Oui, puis le retour de ce mec-là, qui disent qu'il est très important pour eux.
Truc, tu sens qu'il a les jeunes adhèrent à son discours. Sir Alex Ferguson qui lui a donné le brassard. Excusez-moi du peu, mais je fais quand même confiance un minimum à Sir Alex Ferguson, ouais, qui connaît les hommes quand même.
Bien sûr.
Et puis il y a l'homme un peu qui dérape, qui fait ses vidéos, qui est un peu plus fougueux, incontrôlable. L'homme aux deux visages, c'est le clivant.
Voilà. Ouais, clivant. Parce que Patrice Evra, c'est aussi ça.
I love this game. Oh my God, I love this game. I love my life.
Par contre, si tu fais entraîneur, ça t'arrête.
Ouais, effectivement, il va devoir
c'est trouver un peu de crédibilité. Aussi que ce serait probablement un des joueurs qui serait le meilleur entraîneur.
J'en suis certain. S'il gomme un peu ce côté un peu fantasque pour être dans la lumière, parce qu'il était peut-être moins sur le plan sportif, donc il avait trouvé un moyen d'être dans la lumière d'une autre façon. Mais si Alex Ferguson, c'est quand même on va pas commencer à épiloguer là-dessus.
Un peu.
On est tous unanimes pour dire qu'il sait ce qu'il fait. Il en a vu des hommes, il sait différencier un mec qui est capable de faire ou capable de pas faire. Donc si lui te dit qu'il a le profil, moi pareil, quand je le voyais avec les jeunes, quand je le voyais dans des moments un peu plus sérieux où il avait cette capacité à générer, à fédérer, je trouve qu'il a peut-être une étincelle pour ce poste-là. Après, sur le reste, c'est vrai que la carrière ne suffira pas à crédibiliser, il faudra aussi autre chose.
Pour corroborer ce que tu disais dans la très belle interview de nos confrères du Parisien, il y a cette réponse, on lui pose la question, la joie de voir les Bleus gagner le mondial a-t-elle prévalu sur la déception de ne pas avoir été lui-même de l'aventure? Et il a cette réponse sur ce que tu disais sur les jeunes, certains des joueurs qui ont gagné en 2018 lui ont dit: Pat, quand on fait certains discours, c'est comme si ton fantôme était dans le vestiaire. Et lui répond: quand j'entends ça, j'ai déjà gagné. Il avait vraiment cette aura, peut-être gagné au fil justement de son palmarès qu'il a crédibilisé. Il a cette aura auprès des plus jeunes.
Enfin, nous on est, c'est pas nous qui devons répondre, c'est à la limite écouter ce que effectivement c'est les gens concernés, les jeunes qui l'ont côtoyé ou qui le côtoient te disent. Et effectivement, il y a un discours assez unanime là-dessus, c'est que il est dans un groupe, il était très fédérateur et il savait emmener tout le monde. Non, mais... Alors parfois ça a pas été dans le bon sens, et d'ailleurs dans l'interview je l'ai lu, il en parle, et bien sûr de 2010 le bus, etc. On se rend compte que finalement tout a été effectivement très très vite, et que ils n'avaient pas imaginé, lui en premier, je pense, toutes les conséquences que ça allait avoir.
Bon, après,
et ils n'ont pas pris la bonne direction.
Là, il est impardonnable.
Oui, ils ont pris la mauvaise direction. C'est une erreur.
Puisqu'on en parle, est-ce que Naïsna lui restera ad vitam collé à la peau?
Mais comme aux autres, je pense.
Bien,
comme aux autres, sauf que lui avait un rôle de capitaine. Oui, lui avait un rôle de leader ce jour-là, mais il en parle, et pour lui, il le sait que c'est une erreur. Il dit pas: moi, je regrette rien, je referai pareil, etc. Non, il sait que c'est une erreur, mais ça a été très très vite.
T'imagines même qu'un mec comme Jérémy Toulalan, qu'on considérait tous comme le gendre idéal presque, hein, le bon garçon, qui faisait jamais de vagues, jamais d'histoire, il se retrouve aussi, ça lui a collé à la peau pendant très longtemps. Bon, ça, c'est une fois ça effacé, enfin du moins, si on peut pas résumer Patrice Evra qu'à ça non plus.
Non, heureusement, pour lui.
Mais quand tu vois Pogba qui est quelqu'un
quand tu vois que même Mourinho, le message n'arrivait pas à passer, quand tu vois qu'il a quand même un ego, c'est pas facile de parler, de dire des choses à Paul Pogba. Quand tu vois que Patrice Evra a réussi à lui faire passer des messages et que lui acquiesce et dit mais
ouais, tous les jeunes sont unanimes.
Ce mec-là,
c'est les meilleurs juges pour ça. C'est pas
tiré des fois le meilleur de moi sur une causerie, sur de la motivation, sur quoi que ce soit. Le fait qu'il soit coach, ça me paraît pas ubuesque.
On a parlé du palmarès, il est indiscutablement énorme. Hein, champion d'Angleterre 5 fois, vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise.
Et tu ne donnes pas des réponses à ton quiz là.
En 2006, 2009, 2010, je suis pas suffisamment bête pour ça. Mais ça pourrait venir. La Coupe d'Italie, vainqueur 2 fois, 3 fois champion, 3 fois champion d'Italie. Et pourtant, indiscutablement, tu l'as dit, il y a ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Aujourd'hui, le personnage que s'est créé Patrice Evra, le personnage médiatique presque de buzz, j'ai envie de dire, est-ce qu'il vous amuse, est-ce qu'il vous ennuie, est-ce qu'il vous attriste?
Moi, ce que je note, ou alors c'est parce que j'ai pas suivi avant, je sais pas, ou je l'ai pas vu, je sais pas, mais pour moi, il y a toute une période où Pat Evra est un joueur de foot, uniquement un joueur de foot. Mmh. Et à la fin de sa carrière, effectivement, et ça correspond peut-être là où il commençait à être un peu moins bien sur le terrain, est apparu effectivement autre chose, avec la résonance que ça a quand ça concerne un joueur comme ça avec une carrière immense qu'a été à Monaco, mais surtout à Manchester et à la Juve, ça a un impact beaucoup plus. Et j'ai presque envie de scinder en deux, quoi. C'est, enfin, moi il y a le Pat Evra immense joueur de foot, et puis celui d'après. Alors ça peut amuser. Moi, j'ai plus l'impression que ça l'a desservi en termes d'image. Est-ce que lui, il s'en fout ou pas?
Ludo, je pense que oui. Ouais. Juste avant de répondre, pour replacer un petit peu le débat, on vient de donner son palmarès. Il est énorme. C'est un joueur indiscutablement parmi les meilleurs latéraux de sa génération et que l'équipe de France ait connu. Mais Patrice Evra, c'est aussi ça.
Non. C'est un peu arrogant, mais je m'aime tout le temps.
L'équipe de France ait connu.
Ça de remplacer Evra.
Comment il s'appelle le tournoi?
Sûrement pas.
Roland Tournevis.
C'est mignon. Ça, c'est gentil, ça.
Voilà, Roland Tournevis, on se souvient de cette interview un petit peu particulière.
Bon, ça répondait à d'autres choses, mais bon.
Est-ce qu'il avait raison ou pas,
je sais pas, mais ça visage sur le plan sportif, t'as eu l'immense joueur de club, mais en équipe de France, ça a été la bérésina complète sur le plan sportif. Aujourd'hui, je serais incapable de te citer un bon match sur 80 de Patrice Evra en équipe de France.
Oh, il a dû en faire quand
honnêtement,
même.
Honnêtement,
il avait quand même,
dégagé un, peut-être celui contre l'Ukraine. Où je l'avais trouvé plutôt bon, mais
est-ce que t'es pas masqué par ces dernières saisons en équipe de France comme ces dernières saisons?
Non, je suis désolé, tu peux pas dire un membre dans la lignée des arrières gauches de l'équipe de France largement en dessous de Lizarazu, largement
de sa génération. Il a dit de sa génération.
La preuve en est, c'est qu'il a été appelé très longtemps et qu'on avait l'impression que personne n'était capable de le déboulonner.
J'ai toujours trouvé un décalage immense entre ses performances de club et ses performances avec l'équipe nationale. Mais ça arrive à beaucoup de joueurs. Hein,
Je sais pas. Faudrait que je. Effectivement, j'ai plus de souvenirs
J'ai pas de souvenirs de ça.
Un grand Patrice Evra. J'imagine qu'il a quand même fait des bons matchs. Et puis après, quand t'es sélectionné en équipe de France, et surtout avec Didier Deschamps qu'il connaissait par cœur. T'as pas que les compétences réellement que sportives sur le terrain. Il y avait aussi un rôle que Patrice Evra avait dans le groupe et c'est aussi pour ça qu'il était pris. C'est parce qu'il générait, comme on a dit avant, il fédérait et il générait
donc
quelque chose
sportif,
de collectif.
Il n'était pas forcément indiscutable.
À la fin, non. Pendant un moment, je pense que c'était quand même lui le titulaire et que c'était normal. Moi,
j'ai pas le souvenir des premières et des 10 premières sélections. Mais en tout cas, le souvenir que moi je peux en avoir, c'est qu'il a pas marqué fondamentalement ce poste sur le plan, en tout cas, en équipe de France.
Je repose la question parce que vous n'y avez pas répondu.
C'est quoi?
Ces vidéos, ces images, ces buzz systématiques, ça vous amuse, ça vous attriste, ou ça vous ennuie?
Je suis pas fan, et puis je pense pas que ça le serve en termes d'image. Après, par contre, je pense que lui s'en fiche complètement. Mais moi, je suis pas très fan, quoi. Je trouve pas ça super marrant, quoi.
Ça m'a amusé parfois. Je l'ai trouvé ridicule à d'autres fois. Encore une fois, le personnage est clivant, c'est-à-dire qu'il est capable parfois du meilleur comme du pire. Et même au travers de ce Patrice Evra un peu showman, côté spectacle, mise en scène, je l'ai trouvé des fois drôle, faut le dire. Il a fait certaines vidéos qui ont été drôles.
Moi, j'ai pas mémoire de vidéos drôles.
C'est ça qui. Encore une fois, il a tout gâché en sombrant des fois dans la vulgarité et le manque d'élégance, ce qui fait que ça a mis par terre tout le reste.
Benjamin est supporter rennais. Il est avec nous. Salut, Benjamin.
Salut messieurs, comment allez-vous?
Salut Benjamin.
Bonsoir Benjamin.
Ça va pas trop mal, ça va plutôt bien et ça va bien puisqu'on est en direct dans l'after. Ce sera jusqu'à minuit dans quelques instants. On va jouer. T'es venu, Benjamin, pour nous parler de Patrice Evra. Alors, qu'est-ce que toi t'as envie de retenir? Un grand joueur de club, un bon capitaine de l'équipe de France ou un amuseur public pas toujours amusant?
Alors, il y a plusieurs choses. Parce que déjà, sa carrière en club, elle se décompose essentiellement entre Monaco, United et puis après. En quittant United, ça devient la dégringolade. La Juve, ça va
après,
encore.
Après United, il y a quand même 3 titres de champion d'Italie.
La Juve, c'est pas mal quand même.
Mais la Juve, ça va encore parce que, en fait, qu'il faut mettre en rapport, c'est le collectif qui est autour de lui. Si on prend United, la grande époque, c'est Vidic, Ferdinand, Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une très, très grosse équipe. Il y a toujours eu la question où, oui, on dira toujours les détracteurs, les gens qui le défendent vont toujours dire aux détracteurs, oui, mais à partir du moment où, Ferguson lui faisait confiance. Si Ferguson s'y connaît en foot, c'est qu'il y a des raisons. Mais moi, je retiens quand même une chose, c'est que malgré tout son palmarès, aujourd'hui, on demande à des jeunes de citer un arrière-gauche de l'équipe de France des 20-30 dernières années. Ceux qui connaissent un peu le foot, on va parler de Lizarazu en premier. Et je pense que malheureusement, pour lui, il va pas marquer vraiment une génération. Au final, il va être assez vite oublié, malgré tous ses trophées. Il va être assez vite oublié parce que beaucoup trop clivant. Et quand on est clivant comme ça dans un sport co, faut être irréprochable. On peut avoir un caractère énorme, mais faut être irréprochable en termes de performance. Et Marseille, tout comme l'équipe de France, mais moi je repense surtout à ces années à Marseille, c'est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire faire des grandes déclarations dans les médias à J-1. Moi j'en parle en tant que supporter de Rennes. Il était arrivé la veille d'un Marseille-Rennes disant que Marseille allait se relever. Et Marseille en prend 4 au Vélodrome et il y en a 3 de son côté. En équipe de France, c'est pareil. On oublie quand même le France-Grèce en quart de finale en 2004 de mémoire, où il commence à arriver en équipe de France. De mémoire, c'est lui qui est titulaire à gauche et il se fait manger à l'époque sur le but de Caristeas. Donc, ça restera palmarès. Il sera toujours, je pense, vraiment dans les 10 meilleurs joueurs français. Il restera très, très longtemps parce qu'il a énormément de titres. Mais les performances du joueur, d'une part, et puis surtout la personne, quoi, le fait de s'abaisser à répondre à des déclarations. Tout ce qu'il a fait en fin de carrière, voilà, même la façon dont il a fini sa carrière, malheureusement pour lui, en tout cas, moi ça m'importe peu, mais malheureusement pour lui, c'est qu'il ne marquera pas l'histoire du foot.
Benjamin, messieurs, on a parlé du palmarès, on a parlé des vidéos, on a parlé de Nice Night. Il y a un dernier point dans la carrière de Patrice Evra qui est important pour les amateurs de Ligue 1, c'est aussi cette fin en eau de boudin du côté de Marseille, avec cette altercation avec ses propres supporters, les supporters de l'Olympique de Marseille, c'était à Guimarães. Benjamin, est-ce que c'est aussi, ou est-ce que c'est peut-être ce point final qui finit peut-être de ternir l'image d'un joueur qui a pourtant été, on l'a vu à travers son palmarès, exceptionnel?
Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas supporter de l'OM, mais l'OM, c'est un club qui est très aimé en France, donc qui est très aimé par les Français. Donc déjà, c'est sûr que ce qui s'y passe, c'est un retentissement. Évidemment, un joueur qui a un mauvais comportement dans un club moins connu ou moins populaire, il n'y aura pas la même incidence. Un ancien international qui finirait comme ça, justement à Rennes, ça passera entre les gouttes, on l'oubliera assez vite. Mais oui, clairement, ce qu'il a fait à Guimarães, et c'était que le point final de deux saisons qui ont été très ratées à Marseille. Hein. Vraiment, faut revoyer ces matchs. C'était vraiment le point mort, c'est une catastrophe à gauche, quoi. Donc, c'est sûr que, en tout cas, il n'a pas remonté la cote à ce moment-là. Et ce qui l'a encore moins aidé, c'était qu'à ce moment-là, il avait beaucoup de micros qui lui étaient tendus. C'était lui qui allait en conf de presse, c'était lui qui voulait mener l'équipe vers des performances, et c'était le premier sur le terrain à faillir. Donc c'est catastrophique. Donc et puis agresser un supporter, je veux dire, ça s'est vu. Moi de mémoire, je vois Cantona, et puis c'est vraiment autre chose. C'était pas un supporter, mais bref, c'est encore autre chose. Donc c'était vraiment unique de bêtises, quoi, ce qui avait été fait ce jour-là.
Merci Benjamin d'avoir été avec nous dans l'after, d'avoir appelé au 32-16. Même question à vous deux, messieurs, Pierre Ludo, cette bagarre à Guimarães avec un supporter de son propre club, c'est impardonnable.
T'en ressors toujours terni au niveau de l'image, forcément. Après, enfin, Ludo, on a été joueur. On sait aussi que parfois c'est pas tout blanc des deux côtés. Tu sais aussi qu'il peut y avoir des mots, très très. J'allais dire maladroit, mais c'est pas que maladroit, qui vont même plus loin que ça. Et qu'à un moment donné, le jour où t'es pas bien, tu pètes un plomb. Voilà, Neymar qui monte et qui se fait insulter ou je sais pas quoi, bim, une petite gifle. C'est pas bien. Ça excuse pas. Mais moi, je me permettrai pas de juger complètement et de dire il faut pas le faire et c'est interdit de le faire. Enfin, si c'est interdit de le faire, mais ça ne peut pas m'arriver. Mmh. Voilà, ça aurait pu m'arriver, moi. Voilà.
Non, mais ça dénote chez lui une certaine fragilité aussi, une certaine sensibilité. Lui qui paraissait tout le temps l'insubmersible, carapace, armé à toutes les situations. C'est vrai que cette période à l'OM lui a la plus atteinte qu'il n'a voulu montrer.
Non, mais c'est
surtout
un moment difficile pour lui, tu vois. Et je crois quand t'as un mec qui t'insulte en face à un mètre,
cette carrière, revenir à un niveau qui était pas acceptable,
médiocre, ouais,
ni pour lui, ni pour les supporters, a fait que ça a déclenché chez lui, au bout d'un moment, à force des critiques, là, il a perdu le contrôle. Et c'est sûr que...
Ah bien, ça serait pas arrivé dans une période où s'il avait été bien sur le terrain,
bien
etc.
Évidemment,
ça ne serait
bien
pas arrivé.
Bien
forcément,
mais
ça va toujours dans un
lui qui a voulu toujours montrer qu'il était qu'il avait cette carapace et qu'il pouvait tenir le choc face à toutes les situations, il a montré une faille et ça le rend humain finalement.
Ouais, je sais pas si c'est une faille, je pense que c'est une réaction à un moment donné où quand on te dit certaines choses à un maître, à un moment donné tu supportes pas forcément.
Après,
tout
parfois,
le temps.
Hein. Tu vois, moi Neymar, le mec, ce qui, il en a, moi je défends, enfin le mec il en mérite une bonne.
C'est noté.
Je sais pas ce que
23h43 ce Ludo, on embrasse Patrice Evra s'il nous regarde, et il nous regarde Patrice Evra, on l'embrasse, on adore ce jeu nous aussi, sinon on serait pas là pour en parler pendant de longues heures pendant l'after. On revient dans un instant, le quiz Tonton Pat I Love This Game, c'est pour tout de suite.
RMC l'after foot, Timothée Mémon.
23h46, c'est l'after, le dernier quart d'heure de cet after, et on va jouer comme le veut la coutume, c'est l'été, on s'amuse parce qu'on est des petits foufous et qu'on aime bien se fendre la poire. Voilà, on est avec deux supporters qui sont avec nous, on va commencer par les prendre à l'antenne. Baptiste, Arthur, on va commencer avec Arthur, on va faire des équipes. Arthur, t'as été le premier à nous appeler, même si t'es le plus jeune. Avec qui veux-tu jouer?
Bonsoir l'after, alors je vais jouer avec Ludovic Obraniak.
Bonsoir. On aura donc Arthur et Ludo, et donc forcément bonsoir, de l'autre côté nous aurons Baptiste que l'on salue. Salut Baptiste.
Salut Baptiste.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Qui fera équipe avec Pierre.
T'as
alors
pas le choix, Baptiste.
Aujourd'hui, c'est un hommage appuyé que nous rendons à Patrice Evra qui met fin à sa carrière avec ce quiz Tonton Pat. Et alors attention, il ne s'agit pas de donner, parce que je vois déjà Pierre en train de consulter son téléphone, de donner sur la carrière de Patrice Evra.
Pas du tout sur Patrice Evra. Sur Twitter.
On va revenir sur justement ce Patrice Evra qui s'est retourné contre ses propres supporters à Guimarães. Ce craquage, il y en a eu d'autres dans l'histoire du football, des joueurs qui ont craqué contre leur entraîneur, contre des journalistes, contre des supporters. On a exclu les bagarres entre joueurs parce que ça, c'est presque
il y en a trop.
Trop fréquent. Alors, on va y aller simplement pour jouer. C'est pas compliqué. Vous commencez par me dire votre prénom et votre réponse. À votre prénom, je m'interromps et vous me donnez votre réponse. Si vous oubliez de me donner votre prénom...
C'est pour Baptiste et Arthur, pas pour nous.
Pour Baptiste et Arthur et pour tout le monde.
Ah ouais.
Et d'accord. Pour vous.
D'accord, okay.
Ça marche.
Le premier qui donne son prénom et qui donne la bonne réponse donne un point à son équipe. Donc... C'est parti, on cherche donc des gros accrochages. Nous sommes en plein mois de décembre 2006. Mon équipe joue à domicile et elle l'emporte 2-1 face à Saint-Étienne. À l'époque, je joue dans mon deuxième club professionnel après avoir commencé au Lobistar. Je n'ai connu qu'un seul club français de 2004 à 2011. Mon surnom, Goldorak. Pourtant, ce fameux 22 décembre, je pète un câble et j'adresse un doigt d'honneur aux supporters adverses.
Donc aux supporters stéphanois.
Aux supporters stéphanois. Je joue à l'époque pour l'Olympique de Marseille. Je suis un grand costaud.
2006.
Et j'ai commencé donc 2006. À Lobistar. C'est un club nigérian.
Taïtaïwo.
Alors Ludo, je t'accorde ce point, mais c'est la dernière fois parce que
Ludo.
Eh ben oui, parce que sinon il faut que ce soit égalité avec nos.
On a
appelé
Taïtaïwo Goldorak.
Pas dire Ludo.
T'es sûr de son surnom là, Goldorak? J'ai jamais entendu ça moi.
Si, si, non, ouais. on est extrêmement produit. Il y a des équipes énormes qui bossent derrière, à peu près 200 personnes chaque journée pour produire ce questionnaire. Ça fait donc 1-0 pour Ludo et Arthur, 0 pour Baptiste et Pierre. Donc, vous l'avez compris. Deuxième question, nous sommes en janvier 2013. Mon équipe est menée 2-0 par Swansea, excédée par la tournure des événements.
Arthur Eden Hazard.
Excellente réponse d'Arthur. Bien joué.
Bien joué Arthur.
Sur un jeune ramasseur de balles en demi-finale de FA Cup.
Absolument, il s'appelle Charlie Morgan et le ramasseur de balles ne voulait pas rendre le ballon.
Avec Arthur, non ?
Oui, absolument.
Arthur, il a tapé les pétages de joueurs de foot sur Google, là, il a tout sous les yeux.
Ça fait 2-0. Ce que j'ai fait, c'est passé il y a quelques mois. Mon équipe et moi sommes plus ou moins à domicile, même si les supporters de nos adversaires se sont déplacés en nombre. Le match est plutôt simple. Au départ, on mène 2-0 au bout de 21 minutes de jeu.
Neymar sur le supporter rennais.
Arthur, c'est une machine. C'est une machine, absolument. Arthur sur le supporter. Alors,
tu m'expliqueras le plus ou moins chez nous.
Sur Paris, c'est sûr que c'est plus
sur
facile.
Paris. Oui. Stade de France. Non, mais encore une fois, il y a des têtes qui écrivent ces questions.
La rapidité d'Arthur qui est surprenante.
Absolument. Attention, il y a plus dur. Je suis un joueur connu pour mon gros caractère. Sur et en dehors du terrain, j'ai joué pour plusieurs clubs en Ligue 1, notamment Nice, Saint-Etienne.
Cyril Roll. Ludo, Cyril Roll.
C'est pas la bonne réponse. C'est justement à la fin d'un match entre ces deux équipes, entre Nice et Saint-Etienne, que j'ai giflé un journaliste.
Ludo.
Je t'écoute.
Ludo.
Brandao.
Non, pas Brandao.
Ludo, Cédric Varro.
Cédric Varro, excellente réponse, qui avait giflé un journaliste de Nice matin pour une note jugée insuffisante. Ça fait 4-0, c'est la déculottée. Mais je sais pas, il y a une histoire dans le Moscato Show de Golden Carrot. On va mettre une question à 5 points à la fin, t'inquiète pas.
Ouais, on attend celle-là.
Nous sommes à la sortie d'un match, pourtant pas considéré comme quelqu'un de violent. Je m'emporte à la fin de la rencontre contre un supporter. Nous sommes à Saint-Etienne, le thermomètre affiche des températures négatives. Oui.
Fekir, Baptiste.
Baptiste, je t'écoute.
Fekir.
Non. L'arbitre arrête la rencontre pour des raisons météorologiques à la sortie du match. Je m'arrête quand même pour faire quelques selfies, signer des autographes. Mon agent a une plaque d'immatriculation 69, la région ennemie. Une personne arrive, m'agresse verbalement. Je suis sorti de la voiture et je lui ai asséné un coup de tête. Il s'est avéré que c'était d'ailleurs un des chefs des supporters stéphanois. J'ai terminé ma carrière en Inde. J'interviens parfois sur cette antenne.
Ah, Picken.
Frédéric Picken, c'est une bonne réponse. Fred, il a mis et même si t'as pas donné ton prénom, on va te donner un point parce que de toute façon, oui. Fred, il a mis la tête en mec. À Saint-Etienne, absolument.
Oui, attends, c'est un vocable, Fred. Ah ouais, méfie-toi de Fred. Hein.
Alors, est-ce que vous avez connu comme ça des rivalités, messieurs? On fait une petite pause. Oui. Des moments extrêmement chauds, par exemple dans des situations où le club allait mal, où c'était chaud avec les supporters?
Oui, moi à Strasbourg, ça m'est arrivé. Mais c'était plus le fait de, ça se passait pas mal avec les supporters. C'est le fait d'un con, quoi. Et c'est souvent ça d'ailleurs. C'est pas la masse hein, qui est gênante. C'est souvent un qui va trop loin, quoi.
Bon, nous, avec l'an, ces arriver. Dernières années, on a vécu ça aussi pas mal de fois hein, avec les supporters et les joueurs. Hein.
De là en venir aux mains, c'est quand même un cap qui a rarement été franchi.
Au Maccabi Haïfa, quand je signe 31 août, s'ils avaient déjà 3 défaites d'affilée en championnat et 3 premiers matchs. Quand j'arrive, premier entraînement, il y a 1000 supporters autour du terrain d'entraînement. Là, je peux te dire que ça met un petit coup de pression.
Toi qui es arrivé la veille, tu t'es dit que je vais quand même pas mettre une gifle aujourd'hui.
pas de suite, on va voir. Surtout ici. On va voir ce qui se passe quand même. Bon, ouais.
Messieurs, ça fait 4-1 pour l'équipe Arthur Ludo face à l'équipe Baptiste Pierre. Il est temps de se ressaisir. Vous avez encore un petit peu de temps. On y va pour une nouvelle question. Été 2014, lors d'une sortie en famille et plus particulièrement.
Bruno Genesio.
Ou Pep Guardiola, ni l'un ni l'autre. Je suis accosté par une flopée de journalistes devant ma voiture. L'incident se produit alors que ma compagne est présente, que mon fils m'accompagne. Je passe un moment.
Ludo, Franck Ribéry?
Absolument pas. Je ferme la portière de mon véhicule. Je suis sur le point de partir, mais soudain, je pète un câble. Je ressors pour insulter un journaliste. Je vais même plus loin en le giflant.
Je dirais Mathieu Valbuena.
C'est pas lui. Non. Selon plusieurs sources.
Baptiste Verratti.
Non, pas Verratti. Selon plusieurs sources, le journaliste aurait fait un clin d'œil à ma compagne, ce qui aurait expliqué l'agacement. Ma compagne s'appelle Véronica. Mon fils s'appelle
Adrien.
Diego.
Diego. En France?
J'ai absolument pas dit que c'était en France.
Ah.
Je suis un joueur exceptionnel au tempérament de feu. J'ai joué à Naples.
Oh putain.
Un attaquant.
Oh, j'ai ciblé. Ah, oui, un attaquant. L'attaquant même.
Putain, comment il s'appelle?
Bon, je m'accorde le point. C'est Diego Maradona.
Attends, t'as pas dit au départ 2014?
Si, mais c'est en 2014. Ouais, ça n'empêche pas Diego Maradona d'aller au théâtre en 2014.
Ouais. C'était compliqué là.
Attends, y a pas Diego en plus.
Ah bah, Diego Maradona.
J'allais dire Kun Agüero.
Le Kun Agüero, ça c'eût été une possibilité. Ouais. Nouvelle question, nous sommes en janvier 1995, plus précisément le 25 janvier. Il est 21h15 en France. Le week-end précédent, j'ai donné la victoire à mon équipe d'une tête en pleine lucarne. Mon entraîneur me dit de moi à l'époque que je suis fantastique, un régal.
Pierre Cantona.
Excellente réponse de Pierre, ça fait 4-2.
Du coup, 95. C'était 95, c'était à Nîmes.
95, non, c'était effectivement
à
Leeds, absolument, où Eric Cantona, son épris émet un coup de pied en tribune à Matthew Simmons qu'il avait traité. Je peux pas le dire. Voilà, je peux pas le dire, même à cette heure-ci, c'est trop compliqué. Allez, on a le temps de faire deux petites questions. En 2010, à la suite d'une défaite face à Lorient 3-0, je décide d'aller me consoler avec certains de mes coéquipiers en boîte de nuit. Quelques jours plus tard, un journaliste du Parisien a révélé cette petite sortie nocturne.
Baptiste d'Archeville.
Non, il ose venir me voir en zone mixte. Emporté par l'énervement, je lui envoie une gifle en faisant tout de même attention de bien l'insulter en même temps. Au final, j'ai écopé de 100 euros d'amende pour le geste et de 11 euros pour l'insulte.
Baptiste, non, il n'a pas joué. Non.
Oh, ça vaut le coup, 111 euros.
Euros la gifle, c'est effectivement, c'est pas très cher payé.
Donc, une équipe qui a perdu contre Lorient 3-0, c'est ça?
Suite à une défaite face à Lorient, et on est en 2010, je tiens à dire que j'ai été formé dans le club où je jouais à cette époque. Le club en question, c'est le Paris Saint-Germain. Je suis d'un tempérament bouillonnant. On a parlé tout à l'heure d'un match de Patrice Evra.
C'est un gardien de
l'Ukraine. C'est un défenseur. Ludo. Mamadou Sakho. Bonne réponse de Ludovic Obraniak. Ça fait 5-2.
Oh, mais il y a la Golden Count.
Mais il y a la Golden Question.
Bon, Baptiste, c'est maintenant, Baptiste.
Je n'ai pas le droit d'utiliser la notion de Golden Carotte.
La question en or.
C'est Adrien Aygouin, c'est une marque déposée.
Pas de souci.
Donc, je ne m'autorise pas à me mettre au niveau d'Adrien Aygouin. Dernière question. Donc, je suis en plein euro. C'est en France. Et on rappelle que cette question vaut la bagatelle de 4 points.
Oui.
Ce qui, à 5-2, permettrait de passer à 6-5.
Bien sûr.
C'était prévu avant, évidemment. Voilà. Je suis donc en plein euro en France avec mon équipe nationale. On se balade dans un parc pour se détendre avant d'affronter la Hongrie. Un journaliste d'une chaîne que j'apprécie pourtant vient me voir pour me poser une question. Énervé, je lui arrache le micro des mains pour le jeter dans un lac. Non. Avant de lâcher, je suis grand, je suis beau, je suis riche, j'attire
Ludo.
La
jalousie. Zlatan.
Non.
Mais non, en équipe de France.
Non. En euro, c'est durant l'euro en France. En équipe de France.
Ludo, Cristiano.
Cristiano Ronaldo, bonne réponse de Ludo, ce qui offre une victoire écrasante de 9-2 en faveur de Ludo et d'Arthur. Bravo Arthur d'avoir été si rapide. Félicitations.
Bah moi j'étais heureux d'être avec toi Baptiste quand même, tu vois.
Voilà,
c'est l'essentiel.
Désolé parce que moi je m'étais préparé au questionnaire de Patrick Evra,
scandaleux ce que t'as fait.
Je vous avais dit que ce serait un contre-pied. En même temps, si je vous dis 2 heures avant il y aura un questionnaire Patrick Evra, tu te doutes bien que tout le monde a le temps de faire ses recherches et que ce n'est pas forcément le but, un peu de spontanéité. Messieurs, merci beaucoup Arthur,
merci beaucoup
Baptiste, on te souhaite une très belle saison avec le Racing Club de Lens. Arthur, une belle saison avec le Paris Saint-Germain également. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Je vous le rappelle, ce hashtag, mon joueur de cœur, le joueur qui vous a fait rêver, qui a fait briller vos yeux, pas forcément celui qui a été grandiose.
On peut le dire dans nos clubs.
Je t'en prie.
Tu dis quoi, toi, à Strasbourg?
Donne-nous ton joueur de club rapidement.
À Strasbourg?
Mostovoy, Wenzel.
Non,
Luboja. Allez, Francky Leboeuf.
On en parlera demain, vous avez tout le temps pour voter. Tu seras là demain pour en parler. Casten Dutch à Metz. C'est noté. Très très belle soirée à tous. On se retrouve demain à 22h dans l'After. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.
Pascal Camadini à Strasbourg.
On reparlera évidemment de hashtag mon joueur de cœur. Très bonne soirée à tous, merci.
RMC, l'After Foot.